philosophie première, par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 juin 1992.
12.
Le plaisir n'est-il pas l'acte de la vie sensible ? Question. On a raison de poser la question. J'ai été rapidement sur la vie, sur les passions, parce que ce qui m'intéressait, c'était la vie végétative. C'est intéressant. Comme fondement et comme acte particulier par rapport au vivant. Les passions par rapport à l'acte. On a essayé de voir. Il n'y a pas de finalité. Dans les passions. Dans la vie sensible non plus. C'est l'aspect de la forme qui apparaît, on l'a vu, pour les sensations. Et pour la vie affective, les passions, il n'y a pas de finalité. Ce qui explique comment les passions peuvent tout détraquer dans la vie humaine. C'est même assez étonnant. Voir combien les passions peuvent être de la dynamite. Ça fait sauter. Des choses qui sont très fortes et qui peuvent être très fortes peuvent apparaître comme très fondamentales. Au fond, l'être humain n'est jamais sûr dans le déchaînement des passions. Ça explique cet aspect prudentiel constant qui quelquefois peut sembler exagéré parce qu'arrêter certains aspects volcaniques. Mais il faut bien comprendre que les passions, il n'y a pas de finalité, donc c'est le sujet qui l'emporte. C'est l'amour, l'amour passionnel. Vous voyez la différence de l'amour passionnel et l'amour d'amitié, c'est là où justement il faut comprendre la différence entre les deux. Dans l'amour d'amitié, le réaliste demeure. Il y a l'ami. Dans les passions, le réalisme est complètement gommé. Alors, dire que c'est le plaisir, j'aurais plutôt mis le plaisir comme une propriété, comme un rayonnement que, au sens strict. Mais je sais bien, puisqu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de finalité. Alors, s'il n'y a pas de finalité, c'est normal que ce soit la propriété qui s'impose toujours comme quelque chose d'ultime. Vous voyez, on hésite entre l'amour et le plaisir. Mais c'est peut-être la même chose. Alors, on va essayer de comprendre ça. Parce que c'est intéressant comme question, hein. Intéressant comme question au plan proprement métaphysique, pour saisir où est l'acte dans les passions. Parce qu'ordinairement, du point de vue éthique, les passions s'étudient d'un point de vue éthique, s'étudient très peu du point de vue métaphysique. Alors qu'au point de vue métaphysique, ce qui est important, c'est de voir justement qu'il n'y a pas de finalité. Du fait même qu'il n'y a pas de finalité, c'est le sujet. Or, le sujet est saisi par cet amour passionnel qui porte sur un bien sensible. Et le bien sensible n'est pas fin, n'est pas acte. C'est le sujet passionné qui relativise le bien sensible. Parce que le sujet passionné, c'est-à-dire l'homme, et plus que le bien sensible. Donc il l'accapare. La passion est accaparante, on ne peut pas nier. Elle est accaparante, elle fait que tout revient au sujet. Alors, c'est vrai qu'au point de vue du sujet, le dernier moment de la passion, c'est le plaisir, la jouissance. Vous voyez, quand vous énumérez les passions du concupiscible, il y a deux actes. Il y a la colère et la jouissance. La colère est bien acte de la passion, de l'irascible. Et la jouissance, acte du concupiscible. Alors, est-ce que l'irascible l'emporte sur le concupiscible au point de vue acte? Ou bien vous mettez deux actes? Ce qui est toujours gênant, mais c'est peut-être vrai dans l'ordre passionnel. Et vous êtes au niveau passionnel, donc, dans ce primat du sujet qui accapare. On tient son bien. Alors, l'amour passionnel est fondamental. Mais l'amour passionnel, comme il n'a pas un objet, un bien qu'il domine, c'est le sujet qui domine le bien passionnel et qui l'accapare. Donc l'acte ne peut pas être du côté de l'objet. C'est celui qui aime. Au point de vue de la passion, j'allais dire, l'homme passionné se finalise lui-même. C'est sa passion qui est sa fin et qui, par tous les moyens, essaie de la maintenir. C'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est infini. Il n'y a pas de limite. L'homme passionné en veut toujours plus. Il ne s'arrête pas, il n'y a pas de repos. Parce qu'il n'y a pas d'acte objectif. Donc, c'est l'amour en tant qu'il émane du sujet passionné. Donc l'amour passionne, la passion amour, qui est l'acte. Alors, est-ce que à ce moment-là, vous pouvez dire que c'est la jouissance qui permet à l'amour passionnel d'être parfaitement lui-même? Il y a un certain repos dans la jouissance. Et c'est justement ça qui me gêne un peu, de mettre la jouissance comme acte. Parce qu'au fond, la jouissance passionnelle permet un repos momentané, mais s'use. Et on revient toujours à l'amour passionnel. On demande, vous voyez, dans la passion, on demande tout le temps de renouveler la passion. La passion, elle se fatigue. Les pneus s'usent. C'est un dérapage. Et c'est pour ça que la jouissance est-elle fin des passions ou est-ce que c'est la jouissance? Je pose le problème, c'est pas si commode que ça à voir. On est tenté de mettre la jouissance au terme subjectif. Et d'autre part, on est tenté de mettre l'amour qui permet ce renouvellement constant. Vous voyez, parce que quand on est dans les passions, on est dans le devenir. On est dans un devenir conscient. Alors, est-ce que de fait, faut-il accepter, puisqu'il n'y a pas de finalité, que vous êtes en face de l'amour et la jouissance qui perpétuellement flux et reflux. Je ne peux pas m'arrêter uniquement à la jouissance, je ne crois pas. Et c'est l'amour qui est source. On mettrait peut-être les deux. Ce qui ne me gêne absolument pas au point de vue métaphysique, puisqu'on est en devenir. Dans le devenir, il y a toujours les deux contraires. Alors, on va me dire, le contraire de l'amour, c'est la haine. Et le contraire du plaisir, c'est la tristesse. Alors, est-ce que vous devez mettre l'acte de la passion, l'amour et la haine, le plaisir et la tristesse? J'espère que vous voyez la difficulté pour le philosophe de saisir dans la passion l'acte. Parce que l'acte est résorbé tout le temps par le sujet. C'est le propre de la passion. Dans la passion, c'est le sujet qui s'actue. Mais c'est comme un peu une, je sais pas, une, quand vous secouez la mousse, hein, ça monte. C'est le propre de la passion. C'est, vous ne pouvez pas demeurer dans la passion. Vous renouvelez tout le temps. Et on est dans une certaine agitation. D'être passionné est agité. Il est agité dans l'amour, il est agité dans la jouissance, il est agité dans la haine, il est agité dans la tristesse. Là, vous mettriez quatre modalités d'actes, qui sont des actes toujours dans le conditionnement. C'est pour ça que la psychologie aime les passions. La psychologie n'aurait rien à dire. La matière du psychologue, c'est la passion. Avec tout l'imaginatif qui se met là-dedans. Ça, les psychanalystes le disent ouvertement. J'aurais posé la question, j'aurais dit, votre domaine, c'est l'imaginaire passionnel. Ils m'ont dit oui. C'est l'imaginaire passionnel. Alors, l'imaginaire passionnel fait que vous êtes dans un terrain mouvant, qui a plusieurs têtes, qui a plusieurs actes, le flux, le reflux, amour et haine. Quand on aime passionnément, on aime d'entretenir la haine. C'est curieux. Les gens passionnés, ils passent de l'amour à la haine, du matin au soir et du soir au matin. Ils passent de la jouissance à la tristesse, du matin jusqu'au soir. Tout le temps. Donc vous voyez, il y a plusieurs têtes, il y a plusieurs actes. Je ne peux pas dire qu'il y a un acte. Parce que le conditionnement est acte. C'est l'opération passionnée. Le sujet passionné. C'est le propre de la passion. C'est pour ça que c'est si difficile de sortir de la passion. C'est un gouffre. Et vous croyez que c'est un absolu, et ce n'est pas un absolu. Il n'y a pas d'acte séparé. Vous entretenez le plaisir. Ça, c'est vrai. Les êtres, vous les rencontrez des donjons modernes. Ils entretiennent le plaisir. C'est fou. Et ils aiment la multiplicité, la diversité. Et donc, à l'intérieur même de la passion, vous avez ces quatre moments. Et avec l'irascible qui vient en plus, vous avez la crainte, l'audace et la colère. Alors, vous auriez sept têtes. Il faut arriver aux sept. Plus exactement, il n'y a pas sept dans le passion. Je crois que vous pourrez dire ça comme acte. parce que ça aiderait à comprendre toutes les connexions qui peuvent exister au niveau psychologique, au niveau passion. Quand vous entendez un exposé psychologique, restez dans la passion. Et puis vous comprenez tout de suite le conditionnement. Parce qu'on voit la difficulté que nous avons tous quand on est encore éducable. C'est de dépasser la passion. On n'ose pas le dire, mais c'est ça. C'est dépasser la passion. Et c'est pas commun de bien saisir ce domaine. Alors, les passions pour nous sont toujours liées au volontaire et à l'intelligence. Il n'y a pas de passion pure. Ce serait trop beau. Les passions pures, elles sont innocentes. Alors, on ne l'est pas innocent. Au point de vue passionnel, il y a toujours un petit reste volontaire. Et dès qu'il y a le volontaire, il y a le ou la responsabilité. On est responsable de ses passions. On voudrait bien ne pas l'être, parce que ça permettrait à la passion de se développer librement. Vous voyez, c'est toutes les complicités qui sont présentes à la passion. Et des complicités terribles. Mais c'est tout ça qui est là-dedans. Avant le novitiat, on s'en apercevait pas. Au novitiat, on commence à s'apercevoir, tiens, je suis un être passionné. Le noviciat du Saint-Esprit. Parce qu'il faut sortir de la passion pour comprendre ce qu'est la passion. Il faut un amour très pur pour comprendre la passion dans sa complexité. Et ordinairement dans le monde, on est trop pris par l'activité et l'efficacité pour comprendre ce que c'est que la passion. On a son métier, puis alors on se défoule. On dira que le défoulement est nécessaire. C'est la passion, le défoulement. Vous voudriez mettre entre parenthèses votre volonté et l'action volontaire pour vous défouler. Pour être le petit animal qui broute. Alors on se défoule à ce moment-là. C'est très complexe. Hein. Vous voyez donc, c'est sans doute pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais c'est bien de revenir là-dessus. Ça m'oblige d'en parler comme ça. Mais vraiment, vous voyez, je crois qu'on peut dire que dans le point de vue passionnel, vous avez l'énergie est complètement absorbée par l'intellectia. Et donc, le conditionnement est toujours présent. Et c'est le conditionnement qui, de fait, me montre la multiplicité. Et vous n'avez donc pas de métaphysique de l'acte. Vous êtes dans le devenir. Alors le devenir est un acte. Entelegeia. Un acte de ce qui est en puissance. Mais cette force extraordinaire de la définition du mouvement chez Aristote. L'entelecheia, l'acte de ce qui est en puissance, mais de ce qui est en puissance est présent dans l'acte. Et donc le conditionnement est présent dans l'acte. Je ne peux pas le séparer. Et je suis toujours les deux. Alors on pourrait dire que le conditionnement est à l'état parfait dans la jouissance. Le conditionnement est dans un état moins parfait dans l'amour. Le conditionnement est dans un état parfait dans la tristesse qui conduit à l'angoisse. plus sérieux. Et c'est pour ça que ça fait rire. Ça fait toujours rire de voir un homme sérieux se mettre en colère. On a tous fait ça dans le temps quand on faisait chahuter un pion. On savait très bien qu'un avait qui était particulièrement colérique. Et alors, putain, on les a disés. Ils étaient en colère. Et c'était très amusant de voir un surveillant se mettre en colère, un professeur se mettre en colère. Ça, c'est toute l'affectivité. dans ce domaine-là, il n'y a pas de repos. Et toutes les distractions, dès que vous voulez faire oraison et que votre affectivité est un tout petit peu, alors vous avez toutes les distractions. Et vous pensez immédiatement à la manière de pouvoir rejoindre celui qu'on aime, au contraire, lui montrer qu'il a tort de nous oublier et qu'il va le faire à l'abîme parce qu'on est son unique sauveur. Et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Mais vous faites un petit drame comme ça. Bon. Le devenir, lui aussi, est un acte complètement inhibé dans la puissance. Rappelez-vous la définition d'Aristote. L'entelecheia, de ce qui est en mouvement, de ce qui est en puissance. Donc, on pourrait dire que le devenir, vous voyez, il y a deux manières de le regarder. Je le regarde dans la ligne du devenir, c'est-à-dire en regardant l'ordre génétique. Et vous voyez la naissance du devenir. C'est l'émergence du contraire sur le contraire. Il y a une certaine détermination dans tout venir, dans toute altération. Il y a une certaine émergence d'un certain contraire par rapport à l'autre contraire. Mais la qualité qui est présente dans le contraire est jamais elle est impure. Donc, elle est toujours soumise à la potentialité qu'elle possède en elle-même. C'est pour ça que c'est l'acte de ce qui est en mouvement, en puissance, en tant qu'il est en puissance. Donc, vous ne pouvez pas, dans le devenir, avoir un acte séparé. Ce que c'est que la c'est ce mouvement du devenir dans l'ordre de la puissance qu'on retrouve dans l'ordre de l'intelligence. L'intelligence étant pure puissance, radicalement pure puissance, peut se développer elle aussi par une sorte d'opposition constante des devenirs. D'où l'affirmation d'Héraclite, la guerre et la
devenir vital et affectif. Il faut rester en devenir, vous le sentez.
si on voit pas ça, on se noie dans la psychologie et on s'y perd. Venez. Parce que d'une certaine manière, quand vous êtes en psychologie, il n'y a pas de limite. Il faut sortir de la psychologie. Alors, vous voyez tout de suite, et c'est ça le problème que pose cette analyse qu'on donne du devenir. Vous dites ça, donc, il n'y a pas d'acte dans le devenir, un acte séparé. Or, dans toute expérience, on est en présence d'une réalité en devenir. Donc, vous ne pouvez pas dire que la métaphysique repose sur une expérience. Ça, c'est la grosse, grosse objection. C'est la grosse objection de Kant. C'est la grosse objection de tout positivisme. Et c'est la grosse objection du psychologisme. La philosophie n'a rien à voir avec la psychologie. La métaphysique n'a rien à voir avec la science. Parce que d'un côté, on est dans le devenir. De l'autre côté, c'est l'être. C'est exactement ce que dit Heidegger. Pour Heidegger, la science est totalement séparée de la philosophie, de la métaphysique. C'est pour ça qu'il l'appelle l'ontologisme fondamental. Et la psychologie est complètement séparée de la philosophie. Heidegger a en horreur la psychologie. Comme il a en horreur l'expérience de l'étang et de la science. Pour lui, il n'y a qu'une seule chose qui compte, penser l'être. Il faut bien voir cette position-là. Et c'est d'une certaine manière l'inverse de Husserl. Tu restes disciple d'Husserl et en opposition avec Husserl. Husserl est un mathématicien qui fait une méta-mathématique. Et pour faire une méta-mathématique, il faut réfléchir sur le vécu mathématique. Et je crois que si on réfléchit sur le vécu mathématique, on découvre la philosophie. Demander aux matheux de réfléchir sur leur vécu. Alors, à ce moment-là, ils découvrent ce que c'est que la fémologie. C'est très curieux. Et à ce moment-là, vous voyez, on ne quitte pas le devenir. On est dans le devenir du vécu. Le devenir de l'intelligence. Et on veut saisir dans ce devenir de l'intelligence l'être. Et donc on saisit toujours l'être dépendant du devenir. Alors vous avez donc ces deux positions, j'allais dire diamétralement opposées. La position. Et tout ça, c'est pour essayer de comprendre ce que c'est que le devenir. Vous voyez bien, tel qu'il se présente aujourd'hui, vous avez deux positions contradictoires. Si j'ose dire, celle de Husserl et celle de Heidegger. Ça va très bien. Les deux âges. Ils sont en opposition. Pour Husserl, c'est le vécu. Le vécu de l'intelligence. C'est le vécu matheux. Puisqu'il part des mathématiques. Et il a raison. Que les mathématiques, c'est la science la plus noble. C'est le maxime étalé dans la science. C'est la science la plus noble. Toutes les autres sciences, c'est, par rapport aux mathématiques, c'est un peu de la bouillabaisse. Les grands mathématiciens regardent ça de très haut. Ils ont raison. Ils ont raison. Les mathématiques représentent vraiment la science la plus noble. c'est ce vécu des mathématiques. C'est donc dans le devenir, saisir la noblesse du devenir au niveau de l'être mathématique. Et l'être saisi dans ce devenir ne peut pas se séparer de ce devenir. Il est inséparable, il est immanent au devenir. Il est enveloppé du devenir. Il est dans le devenir. C'est extrêmement curieux de voir la manière dont Husserl essaie de définir ce que c'est que la personne. Il n'y arrive pas. Et c'est intéressant de voir qu'il est complètement enveloppé. L'être est enveloppé du devenir. Et donc l'être est tout le temps relatif au devenir. Heidegger, lui, en face de Husserl, pas l'oublier, c'était son maître. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, c'est très simple. Le devenir, on le néantise. Je néantise la pensée mathématique. Et en néantisant la pensée mathématique, je néantise toute la science moderne. Il ne reste plus rien. Et alors, l'être apparaît sur le penser l'être. Donc l'être est relatif au penser, l'être est relatif au devenir. Oui, schématiquement, c'est ça. Être et devenir, vous voyez. Alors, on se sert de l'étang, qu'est le devenir, les étangs, qu'étudient les sciences. On les nie. On les néantise pour que l'être apparaisse dans la pensée. Mais alors, troisième position, qui est au-dessus de ces deux contraires, troisième position qui est considérée que le devenir existe. Et si le devenir existe, l'être est présent. Mais l'être se distingue du devenir. Il n'est pas enveloppé dans le devenir. Il émerge comme acte. Comme un acte, vous voyez, comprenez bien, un acte distinct du devenir, pas séparé. Il n'existe pas séparément. Il existe dans le devenir. Il existe dans le devenir aussi bien le devenir physique que le devenir du vécu. Mais selon deux modalités tout à fait différentes. Et ça, c'est la troisième position. Et c'est cette troisième position qui est la position du réalisme. Parce que les deux autres positions sont des positions insoutenables. Pourquoi ? Parce que le devenir existe. Supprimer le devenir. Et voyez, en supprimant le devenir, je supprime tout ce qui est dans l'ordre du conditionnement. C'est le conditionnement, donc, le point de vue psychologique. Heidegger a presque une haine contre le point de vue psychologique. Il ne peut pas le supporter. Le philosophe n'est pas au niveau psychologique. En ça, il a raison. Mais le psychologique, nous le portons en nous. Il ne faut pas nier le psychologique. Il est en moi, c'est l'homme qui en est la source. Vous voyez, je ne peux pas nier le vécu. Mon vécu, il existe. Mais je ne peux pas le dépasser. Alors, comment faire ce dépassement ? Il faut à la fois comprendre que le devenir existe dans le monde physique. Le vécu existe dans mon monde intentionnel, dans mon monde affectif, la psychologie, tout ce qui est hors du conditionnement existe en moi. Je ne peux pas le nier. Il est. Et il est dans ce devenir. J'ai jamais vu l'être séparé. Jamais. C'est là où le père Mandonné disait l'être séparé, on le voit quand on a 40 degrés de fièvre. Alors on voit un petit truc qui se balade en dehors de nous. que c'est imaginatif. Et quand on commence à être un peu ivre, on commence à voir l'être. L'ivresse. Mais c'est vrai que l'ivresse métaphysique nous fait saisir l'être, tandis que l'ivresse biologique, non. Les drogues, qu'est-ce que c'est? C'est cette recherche de l'absolu, cette recherche de l'être. On cherche ça éperdument aujourd'hui. Parce que justement, l'être dans les deux perspectives, de Heidegger et de Husserl, c'est insoutenable. On ne va pas accepter ça. Il faut découvrir la distinction de l'être du devenir, mais non pas la séparation de l'être du devenir. Il faut distinguer que l'être, ce qui est en tant qu'il est présent dans le devenir. Alors à ce moment-là, vous pouvez dire que le devenir fait partie de la métaphysique. C'est tout à fait juste. Parce qu'il est. Et donc, le devenir, je ne peux pas saisir le dernier moment de l'être en acte si je ne le saisis pas dans le devenir. C'est l'ultime, la dernière modalité de l'être en acte. Après, je sombre dans la potentialité. Il faut secouer pour que l'amour se vienne. Et puis, si vous ne secouez plus, tout redégringole au bout d'un heure d'Adam. C'est la potentialité qui prend tout. Il n'y a plus de mousse. Elle a disparu. On ne sait pas comment. Elle a disparu. Elle n'existe que momentanément, tant qu'on la secoue. Ça, c'est le devenir. Autrement, c'est la potentialité. La potentialité absolue. Mais le devenir existe. Tu ne peux pas nier ça. Et l'exister n'est pas le devenir. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'exister n'est pas le devenir? Parce que tous les mouvements existent. Et ils sont tous distincts. Donc, l'exister du devenir n'est pas le devenir. Si l'exister du devenir n'est pas le devenir, je peux essayer de saisir à l'intérieur du devenir son exister, son être. Alors, je précise, qu'est-ce qui peut saisir l'être dans le devenir? Seule l'intelligence. Alors que mes sens, mes sensations sont très à l'aise dans le devenir. Je caresse le devenir avec ma main. Je suis complice du devenir avec mes yeux. Je suis complice du devenir avec mes oreilles. On aime ça, là je suis en bonne naturalité parfaite. L'être m'échappe. L'être est sauvage. Pour mes sensations, je l'atteins jamais. Et c'est pour ça qu'il est quelque chose de terrible, parce que je l'atteins jamais. Je ne peux pas éduquer l'être. Je ne peux pas le rendre relatif à moi. Il s'impose. Et donc il me montre ma limite. Et ça, c'est insupportable pour mon orgueil. Donc pour moi, mon moi orgueilleux, mon moi psychologique. L'être est insupportable pour le moi psychologique. Les psychologues ont de la haine vis-à-vis de la métaphysique. Parce que la métaphysique est toujours là pour leur dire, mais oui, très bien ce que vous dites, courez, 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 vous n'atteindrez jamais l'être. Il y a une espèce de... C'est important de saisir ça, les relations, voyez, entre le devenir et l'être. Cette modalité particulière de l'acte dans le devenir. Et donc, comment l'être est voilé dans le devenir, comment il est caché dans le devenir, comment il risque toujours d'être inhibé dans le devenir. Et le propre du philosophe et de l'être intelligent, c'est de dévoiler l'être du devenir. Toute la philosophie, c'est de dévoiler l'être du devenir pour saisir la structure propre de l'être, à la différence de